Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Alconos. Bonjour la caméra. Il y a l'autre caméra qui est là-bas. Bonjour l'autre caméra.
Hello.
On est tous là, encore toute l'équipe, donc Yvan, Émilie, Luigi et moi-même. Et on est là pour animer cette deuxième épisode de l'Alconos, où on va encore une fois parler d'actualité, événements à venir sur Strasbourg. Et après, il y aura deux petites chroniques cette semaine. Ce sera Émilie et Luigi qui nous parleront.
On s'y colle.
Ah bah c'est à votre tour, hein. C'est tout nous la semaine dernière.
Non pas on picole.
Ah, c'est très drôle,
ah
ça, dis donc.
Là 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 là.
C'est très drôle. J'ai l'impression que le micro sature un petit peu sur le logiciel, donc baisse peut-être un petit peu.
Là, ça devrait être bon, je pense.
Oui, ça a l'air d'être bon. Bonjour à tous. Ah oui, c'est un peu la galère parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les micros avaient l'air de capter, même quand ils n'étaient pas censés capter. C'était chelou. Bref, on va commencer par un petit sommaire quand même. Tout d'abord, il y aura notre résumé de l'information avec un flash en vitesse lumière. On a renommé des choses. Ensuite, on parlera un petit peu plus des événements à venir sur Strasbourg, comme j'ai déjà dit. Après ça, ce sera au tour de Luigi de nous parler de son expérience de guide touristique. Après ça, Émilie.
Ouais, je vais parler d'Ecosia, de moteur de recherche, etc.
Et après, on finira par l'habituelle tournée des coups de cœur. Et voici maintenant l'heure des informations et du flash en vitesse lumière.
Yvan, c'est à toi.
Non, c'est à moi. Non, c'est Yvan.
Oui, non, mais oh, on est d'accord.
Vas-y. Okay.
Donc, récemment, le ministre de la Culture, Franck Riester, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Très bien. Donc, le ministre de la Culture a annoncé vouloir présenter une loi concernant plusieurs sujets, dont un qui concerne les coupures pub lors des films passant à la télévision. Donc en effet, celle-ci autorisera les chaînes de télévision à placer une troisième pure coupure publicitaire, dans les films et les téléfilms de plus d'une heure trente. Et également, certaines chaînes comme TF1 et M6 ne seront plus obligées d'attendre 20 minutes entre les deux coupures pub. C'est très compliqué à dire.
Et dis donc, nous qui nous plaignons d'avoir des pubs dans les films sur M6, ça va pas changer.
Le seul moment de l'année où tu regardes des films, genre à Noël, t'auras trois coupures pendant ton film.
Yes.
Au pire, maintenant qu'il n'y a pas de service de streaming Lego sur Internet, ça arrange bien les gens.
C'est pas faux. Ouais, ouais. Alors moi, je vais vous parler du gouvernement et des pesticides.
Yes.
En effet, le gouvernement a tranché sur l'utilisation des pesticides à proximité des habitations et des écoles, entre autres. Pour rappel, certains maires avaient pris des arrêtés pour interdire l'utilisation des pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Ils ont été rendus caducs et le gouvernement a placé la distance à 5 mètres pour les cultures basses et 10 mètres pour les cultures hautes.
Parce que bien sûr, de toute façon, quand on est à une distance pareille, il n'y a rien qui peut se passer. Hein. Ouais. Quand tu as de la flotte qui arrive sur les pesticides, il reste sur les cultures qu'on a traitées, bien sûr. Ah là là là.
Et maintenant, c'est au tour du coup de l'ouragan d'Orient et de la cocaïne.
Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Alors, il s'est passé un petit truc, c'était la semaine dernière. Il y a eu un ouragan qui a un peu attaqué la Floride, tout ça. Et du coup, on a plusieurs kilos de stupéfiants, en fait, qui ont été découverts par des touristes sur des plages, donc sur la plage de Paradise Beach Park et sur la plage de Cocoa Beach, notamment. Donc, ils ont retrouvé des petites briques avec écrit « diamant » dessus. Et après examination policiers, c'était bien de la cocaïne. Et il y a 15 autres briques qui ont été trouvées dans des sacs de sport et 25 kilos de cocaïne sur une autre plage, à 30 km de la première plage. Voilà, voilà. Super.
C'est très très joyeux. Tu sais, tu te promènes le matin et là tu fais « Oh bah dis donc, c'est quoi ?»
Une petite brique de diamant. Ah bah non. Ça coûte tout aussi cher, mais...
Un petit peu. Enfin,
non, mais moi, j'imagine surtout les gens qui sont à la plage et qui vont voir la police en mode « Bonjour, j'ai trouvé un sac de cocaïne. »
Mais c'est surtout que tu la trouves, tu la revends.
Totalement ça.
Et après, tu vas en prison.
Oui. C'est à tes risques et périls. Hein.
Donc, c'est à nouveau à moi. Donc, ce vendredi 6 septembre, donc, le site Wikipédia et quelques autres sites également ont été touchés par une très grosse attaque DDoS. Ce qu'ils a complètement rendu inaccessible durant 8 heures à peu près, et ce dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis. J'ai plus exactement la liste exacte des pays, malheureusement. Donc Wikipédia a ensuite réagi dans un communiqué en condamnant cette cyberattaque et en jugeant que de telles attaques menacent les droits fondamentaux de chacun d'accéder librement à l'information et de la partager.
Et yes.
Encore un coup des Russes.
Sûr, certain. Alors, à mon tour de revenir parler, je vais vous parler des changements dans les cours criminelles. En effet, pour essayer de désengorger le système judiciaire français, une des mesures phares de la réforme de la justice était la simplification des assises. À titre d'essai, des cours criminelles sans jury populaire ont siégé jeudi, à partir de jeudi. Elles seront en mesure de juger des crimes allant de 15 à 20 ans d'emprisonnement. Le reste ira aux assises, mais la réforme fait débat. Et c'est la fin de ces actualités en flash. Il est maintenant temps d'aborder un plus gros morceau de l'actualité avec le coq Maurice. Émilie, je te laisse la parole.
Alors, notre petit coq Maurice, qui est Maurice, vous allez me dire. Alors, c'est un petit coq qui vivait sa vie bien tranquille. Et en fait, il y a des gens qui ont décidé de porter plainte contre lui parce qu'il faisait trop de bruit le matin sur l'île d'Oléron. Donc, c'est un couple d'agriculteurs retraités qui viennent à la base de Haute-Vienne qui ont déposé plainte parce que dans leur résidence de vacances sur l'île d'Oléron, le coq faisait trop de bruit. Donc, ils sont allés en tribunal correctionnel. Donc, le coq a été jugé jeudi dernier. Et ils ont jugé que Maurice pouvait continuer de chanter et ce petit couple doit désormais 1000 euros de dommages et intérêts à la propriétaire du coq, ainsi que le paiement de tous les frais de justice. Et je cite ce qu'elle a dit du coup à la fin du procès. Je suis sans voix, on leur a volé dans les plumes, c'est une victoire pour tous les gens de la même situation que moi, j'espère que cela fera jurisprudence pour eux. Voilà, merci Maurice.
On rappelle aussi que c'était courant de juger des animaux, je crois la Révolution française, mais peut-être que j'ai des grosses bêtises, mais à la Révolution française, il était courant de juger des animaux, puisque selon la Bible, les animaux sont égaux aux hommes.
Oula.
C'est un truc comme ça. Je raconte peut-être des grosses conneries, mais je crois que c'est un truc comme ça.
Je pense que tu dis des grosses conneries.
Mais je crois que c'est un truc comme ça, où en gros, les animaux, comme ils sont égaux aux hommes, ils sont égaux au niveau de la loi aussi. Donc quand un cochon bute un homme, on jugeait un cochon dans une cour.
Honnêtement, il faudrait qu'on se renseigne plus et qu'on fasse une vraie chronique là-dessus.
On vous en parlera plus tard. Mais si je dis pas le bêtis, je me souviens d'images d'histoires où on voyait des grosses cours avec un cochon au banc des accusés.
Ça devait être drôle.
J'ai aussi des souvenirs là-dessus.
Donc je dis peut-être pas des trop
jambon
trop
gratuit,
grosses conneries.
Qui en veut.
Alors maintenant c'est à mon tour de parler de ma grosse actualité. Je vais vous parler du Brexit parce que c'est rigolo le Brexit quand même.
Et qu'on a des news là-dessus toutes les semaines.
Ah, c'est à peu près ça. Ça va être
notre fil rouge en ce début d'année.
Et ça va être le fil rouge. Mais là je vais vous parler du plus beau retour de bâton. Alors, vous voulez savoir qui a passé une mauvaise semaine? C'est Boris Johnson.
Pauvre Boris.
Cette semaine, il s'est pris le plus beau retour de bâton que j'ai jamais vu dans l'histoire de la politique récente. Situons le début. Il est Premier ministre et a donc la majorité à la Chambre des communes. Il a suspendu le gouvernement jusqu'à 2 semaines avant la date du Brexit pour empêcher des discussions. Et il voulait lancer des élections anticipées pour avoir encore plus de pouvoir et encore plus de majorité. Eh bien, voyons voir où il en est actuellement. Déjà, mardi matin, l'opposition a fait une alliance pour voter contre toutes les demandes de nouvelles élections tant qu'une loi contre le Brexit sans accord ne sera pas promulguée. Ensuite, dans l'après-midi, un député membre de la majorité, donc du gouvernement, est allé s'asseoir en face dans le camp de l'opposition. Ce député, c'est Philip Lee, et il semble être plutôt bien accueilli par Joe Swinson, chef du parti des Lib Dems, parti europhile. Donc là, c'est ce qu'on appelle déjà une première carotte. Boris Johnson vient de perdre sa majorité à la Chambre des communes. Et ça, c'est déjà rigolo. Donc pour rappel, la Chambre des communes, c'est en gros le Parlement britannique. En gros. Ensuite, John Bercow, donc speaker à la Chambre des communes, qui a un peu mal pris qu'on suspende le Parlement, a autorisé les députés à débattre d'une motion permettant de reprendre le contrôle de la Chambre. Officiellement, il est censé être totalement impartial, mais officieusement, il est anti-Brexit. Après ça, les députés ont débattu pendant plusieurs heures avec un discours très arrogant de Jacob Rees-Mogg et ministre chargé des relations avec la Chambre des communes. Au final, quand il est venu le moment du vote, 21 députés de la majorité votent contre le gouvernement. À 328 voix contre 301, ils seront exclus du groupe parlementaire par la suite et il perd totalement sa majorité. Voilà, Alors ça, c'est quand tu fais « Eh, si t'es pas d'accord, je t'exclus !» Bah je suis pas d'accord, bah t'es exclu, bah t'as plus de voix. Voilà. Donc c'est un gros chez I heard chez de ma oreillette. Ensuite, arrivons au mercredi. C'était le jour où les députés posent des questions au Premier ministre. Et bien sûr, il en a pris plein la tête avec des insultes et même des retournements de veste de la part des députés de son côté qui vont l'accabler de reproches. Dans la foulée, la Chambre des Lords, l'autre partie du Parlement britannique, accepte de débattre en urgence sur la loi anti-no deal. Donc, on récapitule. Majorité à la Chambre des communes, terminée. Suspension du Parlement, rejetée. Sortie de l'Europe le 31 en no deal, rejetée également. Élection anticipée, en cours de vote au moment de l'écriture de ce texte, mais des fortes probabilités pour que ce soit non. Et en gros, j'ai écrit ce texte cet après-midi, j'ai pas eu le temps de revérifier, mais ils votaient ça en fin d'après-midi. Et voilà. Et pour plus de détails, je vous invite à lire l'article de France Info qui résume ces 48 heures sur laquelle je me suis basé et qui contient toutes ces informations. Voilà. Alors, je pense que c'est le moment de parler des événements et des actualités à venir sur Strasbourg.
Ouais. Tu commences du coup.
Vas-y, je te laisse commencer.
Alors, attends, je retrouve mes infos. Alors, en ce moment, on a deux gros événements sur Strasbourg avec le festival du film fantastique. Et il y a aussi un petit festival, je n'y suis pas allée pour le moment, mais c'est un festival d'art urbain contemporain. Il y a beaucoup de graffeurs qui sont présents, ou qui ont fait du moins des graphes, etc. pour le festival. Donc parmi les gens qui sont là, on a Wise, DXTR, Debza, Alexon, Enfant Sauvage, Madame, Tank, Popek, William, j'espère pas me tromper. Mais du coup, il y a au moins une vingtaine de personnes. Ça se passe au garage du 6 septembre au 29 septembre. Et on peut venir les vendredis de 18h à 22h, les samedis de 14h à 22h, les dimanches de 14h à 19h. C'est 21 rue déserte. L'entrée est gratuite. Il y a un bar, de la musique, des tables rondes sur les artistes qui auront lieu. Un pop-up store et c'est 500 mètres carrés à 2 minutes de la gare. Donc voilà, ça a l'air super sympa. Ils ont retaffé tout un garage pour l'événement. Voilà. Tu peux parler du festival, maman.
Alors, le festival européen du film fantastique de Strasbourg. En fait, je me rends compte que j'ai pas fait tant de recherches de ça que ça dessus. Donc, je vais pas vous dire grand chose et pas grand chose de plus que la semaine dernière. Mais sachez qu'à partir de ce week-end, les jeux concourants pour le concours de jeux vidéo du festival européen du film fantastique de Strasbourg seront jouables au Shadok. Et d'ailleurs, j'essaierai d'aller les tester sûrement le week-end prochain, enfin le week-end d'après. Et normalement, j'irai rencontrer le développeur de Scourgebringer, donc Flying Hawk Games, qui est un petit studio de deux ou trois personnes à Metz. Et voilà, je vais essayer de ramener une petite interview et on vous la passera sûrement à ce moment-là.
Voilà, une petite interview de Thomas Altenburger.
Mais oui,
j'espère ne pas écorcher son nom.
C'est pour ça que je l'ai pas forcément.
Au pire, Altenburger, bon.
et j'irai tester les autres jeux, je vous en parlerai aussi. Et donc, si vous aimez le cinéma, cinéma d'animation, cinéma indépendant.
Ouais, il y en a pour tous les goûts.
Il y en a pour tous les goûts. Et il y a énormément de cinéma à Strasbourg qui.
Et c'est surtout que les places sont moins chères.
Voilà.
Qu'à l'habitude.
Et si vous êtes étudiant, parce qu'on a un podcast étudiant, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas d'aller faire renouveler votre passe campus. Maintenant, vous pouvez remettre un autocollant dessus. Il faut aller voir la scolarité de vos universités. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui.
Merci de nous avoir prévenus.
Donc voilà, vous pouvez aller. N'hésitez pas à aller regarder vos scolarités ou checker vos mails. Normalement, ils envoient un mail pour dire. Et n'hésitez pas à aller du coup renouveler ça. Et ça vous fait pas mal de réductions.
Et pour ceux qui sont à la fac et que si vous avez des gros problèmes administratifs, n'hésitez pas à aller aux Platanes qui sauront bien résoudre vos problèmes normalement. je dis pas salut toute expérience pour cette année. Je vois pas de quoi vous insinuer.
Sinon, vous allez voir l'érable, ça marche aussi parfois.
Oh là 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 là.
J'en suis très fier de celle-là. J'en suis très fier. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a un petit peu beaucoup rushé au final. Ça fait qu'un quart d'heure qu'on a démarré. On va être beaucoup plus en étant. Alors, pour situer un peu le contexte, c'est que à partir de la semaine prochaine, on n'enregistrera plus chez moi. Parce que là, pour le moment, on est chez moi, on est dans mon appartement. Et ça devenait un peu galère parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas tellement de place en fait. Là, disons que c'est un peu le seul espace à peu près grand. Et là, on tourne sur ma table à manger qui normalement est dans ma cuisine pour faire manger. Donc c'est un bordel. Et à partir de la semaine prochaine, on enregistrera au DUT, ouais. au département
enfin
informatique
yes.
de l'IUT d'Ilkirch. On a une salle pour nous pour enregistrer.
Qui est réservée, voilà, les soirs. Et on va enfin pouvoir ramener des gens, inviter du monde.
C'est ça.
Ça va être cool.
Alors, et ensuite, un truc important, c'est qu'on n'a que de 17h30 à 19h pour rentrer l'épisode. On finit les cours à 17h30, on doit dégager à 19h et ça doit avoir monté enregistrer l'épisode, démonter. Donc c'est très drôle.
Mais ça va être chaud au niveau temps.
Voilà, alors c'est le moment de la petite pause musicale, je crois.
Ouais.
Donc on se retrouve juste après. Allez, salut tout le monde.
Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale on puisse être amené à servir du homard. Moi je n'aime pas ça, tu n'en manges pas. Moi je n'aime pas ça, tu n'en manges pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Et votre femme également, et votre femme également. Et on fait croire que c'est moi, et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin, moi je n'aime pas ça, tu n'en manges pas. Moi je n'aime pas ça, je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça, tu n'en manges pas. Moi je n'aime pas ça, je n'en prends pas. Je ne prends pas de champagne. Je ne prends pas de champagne. Le champagne ça me donne mal à la tête. Et votre femme également. Et votre femme également. Je déteste le caviar. Je déteste le caviar. Et votre femme également. Alors voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Je n'en prends pas. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Tu n'en manges pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Tu n'en manges pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Tu n'en manges pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas. Moi je n'aime pas ça. Tu n'en manges pas. Moi je n'aime pas ça. Je n'en prends pas.
Bonjour à tous.
Le bonjour.
On s'est rendu compte que la musique était plus courte que prévu. C'est formidable. Alors c'est très très drôle. On est en train de se rendre compte qu'on a complètement rushé l'épisode et que j'ai oublié d'annoncer la musique. Alors c'était, j'oublie à chaque fois. Donc c'était un remake de Khalid Freak, de De Rugy qui s'appelle Moi je n'aime pas ça. Voilà. Comme d'habitude
avec
Comme on aime. Et le lien sera dans la description. De la vidéo sur YouTube et de l'épisode de podcast, comme d'habitude. Et si jamais vous êtes en stream, actuellement, ma connexion et SFR semblent avoir décidé de dire non. Donc, si vous avez des écrans noirs,
bim, bam, boum.
C'est un peu normal. Voilà, ma connexion a l'air de dire non, donc je suis vraiment désolé. Voilà. Mais à partir de la semaine prochaine, normalement, on sera sur le réseau Reneter.
Ouais.
Donc, pour accéder à Internet, on passera par Lille.
Wouhou. Plus de problèmes.
Encore plus.
Petite chose, Jules, je ne vois pas le retour du son dans OBS.
Bah, c'est normal, il est en bas. Regarde, il est là. Il est là.
Oh.
Il est
merci,
là.
Merci, parce que j'en ai besoin pour régler dynamiquement les volumes.
Voilà.
Merci.
Donc, notamment, même, je gérerai mieux OBS la prochaine fois. Bref. Du coup, c'est le moment de la première chronique de cet épisode. Et,
ouais.
Et si je regarde dans cette direction, c'est parce que c'est autour de Luigi.
Oui.
Donc regarde Luigi, voilà.
Hello. Donc ma chronique, comme l'a dit Jules avant, portera sur mon expérience de guide touristique qui s'est déroulée sur 7 mois et demi pour l'instant, dans le cadre d'un service civique. Donc c'est pas une expérience de guide en tant que vrai salarié ou en tant que bénévole complet, c'est entre les deux. Et du coup, comment a commencé cette expérience ? Alors c'était un beau matin de 2018, je ne sais plus quel jour. Non, je vais faire un peu plus rapidement sinon je vais vous perdre tous. En gros, ça se passe en plusieurs temps. Premier temps, on assiste soi-même à des visites pour voir un peu le pli, savoir comment on les fait, être un petit peu habitué au rythme de travail, au rythme des visites, pour éviter de tenir soit une demi-heure, soit 5 heures.
Bah tiens, j'ai l'impression que c'est comme un podcast, dis donc.
Absolument, ça c'est très très proche.
Tu es moi.
La seule différence entre les deux, c'est que ton public est vraiment devant toi quand tu es guide.
Bah là aussi, là ils sont devant nous, le chat Twitch.
Ils peuvent nous trash talk
voilà,
quand ils veulent.
Voilà. Sauf que quand tu es podcasteur, tu n'as pas un gamin qui vient dans ton dos qui tape « Bonjour madame
». Salut madame.
Enfin bref, j'ai plein d'anecdotes, si vous voulez me les demander quelque part, n'hésitez pas à venir me contacter si vous arrivez à me retrouver quelque part.
Twitter. Allez regarder dans les follow du compte Twitter d'Alconos.
Il y a 4 personnes.
Il y a les Twitter, c'est 4 personnes.
Ouais,
voilà.
Je ne suis jamais sur Twitter, ça c'est... Enfin bref, donc au début on commence par apprendre un petit peu sur le tas. Essayer de retenir le plus d'informations qu'on peut, prendre des notes comme quelqu'un en fac.
Déjà précise peut-être où t'as fait...
C'est pas bête.
Et parle doucement.
Ton expérience.
D'accord, je vais parler plus doucement, comme si je faisais une visite en mine. Mais pas trop quand même, parce que mes visites en mine durent 5 heures. Du coup, j'étais guide touristique dans les mines de Sainte-Marie-aux-Mines. Et je vais quand même parler un peu de l'association qui était l'association de la CEPAM, du coup. Et...
ça y est, il sait plus quoi dire.
Excusez-moi, j'ai
plus rapide,
fait une petite entorse à mon plan.
Et c'est le drame.
Et là, c'est le drame. Et du coup, j'ai appris comme ça pendant environ un mois et demi, à faire juste des visites en suivant, prenant des blocs de feuilles, des blocs de notes, prenant des pages et des pages et des pages et des pages de notes pour retenir au final quasiment rien.
C'est pas grave.
Et c'est alors que m'est venue la chef en mode « T'as rien retenu ? Tiens, prends ce bouquin, tu le lis. » Donc en gros, on a aussi beaucoup de documentation, on a accès à des bibliothèques avec des ouvrages assez anciens pour tout ce qui est guide au niveau historique. Après, pour tout ce qui est guide au niveau de patrimoine plus récent, ça va vraiment être dans l'interprétation et dans des archives plus récentes, bien sûr. Tout ça pour revenir au fait que ça dépend vraiment de l'endroit où vous allez être pour si vous êtes guide touristique. L'endroit où, l'entreprise ou l'association sera très prévenante, très à l'écoute et très... très à l'aise pour former des guides, et il y en a d'autres dont je ne vais pas nommer, qui sont vraiment au rendement, rendement, rendement. Si vous faites une minute de plus dans votre visite, vous êtes engueulé. Enfin bon, pour continuer un peu sur cette expérience, je vais parler un peu plus de mes expériences personnelles en tant que guide. Un peu aussi les différents types de visites et les différents types de personnes qui peuvent venir faire des visites. Déjà, on va parler un peu des types de visites. Alors, je suis dans une visite qui est un peu plus au côté historique minéralogique, donc assez scientifique au final. Néanmoins, on a quelquefois des visites un peu plus fantaisistes. Et l'optique reste la même, c'est de savoir rester accessible au plus grand nombre, de savoir s'adapter à son public, et également de savoir parler à une bonne vitesse, pas trop vite, pas trop lentement, en articulant correctement.
Pas comme toi, quoi.
Exactement, c'est là qu'était mon plus gros problème quand j'ai commencé. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise à l'oral, de base. Et je me suis retrouvé guide touristique du jour au lendemain, avec une articulation, ma foi, des plus déplorables. Tout ça pour parler avec des mots qui viennent pour la plupart de l'allemand, sachant que je ne sais pas rouler les R. Donc je vous laisse imaginer un peu la galère.
On se rappelle des cours de SVT du lycée avec le schiste à fascia, le métamorphisme fasciatiste vert, truc à fasciatiste bleu, le métamorphisme, les grêles,
non, non plus, Yvan, t'inquiète
les
pas.
Roches plutoniques.
Voilà, à peu près tout
le
bordel.
STI, FES,
la foliation, etc. Tant de choses que je n'avais pas apprises de moi-même, parce que je n'ai pas fait SVT, que j'ai dû apprendre sur le tas en quelques jours. Oui, Yvan ?
On a pu voir ma tête de choqué à la caméra, bonjour.
Ouais, la mienne aussi, hein. Je ne sais pas si on voit. Mais...
bon, j'ai l'impression qu'il y a un gros plan sur ma tête, c'est assez violent.
C'est pas grave, ouais. On aime bien ta tête.
Ta tête de choqué.
Et du coup, je vais parler un peu plus maintenant des expériences des visites en elles-mêmes. Alors, comment être un bon public pour un guide touristique ? Ne le regardez pas avec des yeux de merlan frit, parce que ça ne va pas l'intéresser et du coup, il va oublier la moitié de ses informations. Et faites-lui comprendre que vous avez compris, surtout. Parce qu'un guide touristique, un public qui est comme ça...
J'ai tout compris !
Et qui le regarde et qui fait juste, vous avez des questions ? C'est pas très intéressant.
Ben, c'est que de base, les gens
alors,
voulaient peut-être pas
venir. Le moment de l'audio-description, puisque nous rappelons que ceci est un podcast parlé. Luigi a fait une tête en mode « Je ne sais pas de quoi vous parlez ». Et après, quand il demande « Avez-vous compris ?», il a secoué la tête. C'était le moment audio-description.
Voilà.
Parfait moment, il manque juste un jingle pour ce moment.
Pam, pam, pam.
Pam, pam, pam.
Audio-description. Pam, 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 pam.
Oui, c'est bon, ouais. On a compris.
C'est jingle voilà. De quoi, ça, encore ?
Question pour un champion.
Je me disais aussi.
Et au début, c'était RTL.
Fantastique.
Effectivement.
Et du coup,
si seulement on avait le présentateur avec nous.
Ah, c'est pratique.
Ambiance de ouf.
Nouvel objectif.
Nouvel objectif, avoir quelqu'un qui paye 5000 euros par mois. Et je vais boire un verre d'eau parce que je commence à avoir mal à la gorge.
Déjà, quelqu'un qui est payé 1 euro, ce serait déjà bien.
Grave.
Puisque, voilà, c'est le moment de remercier vite fait pendant qu'il boit nos contributeurs. Merci à tous, c'est grâce à vous qu'on a tout ce beau matériel pour enregistrer ce podcast.
Il n'y a pas de placement de produit pour Oasis, hein, désolé.
C'est vrai qu'à chaque fois, il fait des placements de produits.
Mais était-ce vraiment la peine de le préciser ? Néanmoins, maintenant, on va parler un petit peu plus Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir ?
Ben, de quoi tu parles en fait durant tes visites ? Parce que à la rigueur, le public, s'il est pas intéressé, etc. Bon, tu peux rien. Hein, c'est juste que ça va être plus difficile. C'est comme ça. Quand t'es professeur. Mais ce que tu fais au niveau de tes visites, donc genre, est-ce que tu commences par directement rentrer dans la grotte, machin, présenter ce qui s'est passé, l'histoire de la mine. Si tu commences par des détails, comment
alors,
ça se passe ?
On commence par le commencement historique qu'on a réussi à situer. C'est-à-dire pour l'instant les moines d'Échery. C'est le 9e siècle, carolingien, je vais pas rentrer dans les détails, je vais éviter de vous abasourdir à coup, à coup d'histoire barbare. Et ensuite, on va un peu plus suivant les gens, dans un côté historique s'ils s'intéressent par l'histoire, côté minéralogique si c'est plus les cailloux qui les intéressent, ou un côté plus ressenti, si c'est vraiment l'ambiance qui les mène vers nous. Parfois, on passe aussi dans un côté un petit peu fantastique, quand il y a des enfants avec, ça leur fait toujours plaisir, et les parents, ça les fait bien rigoler.
T'as quoi par exemple comme, je sais pas, petite phrase fantastique, une petite anecdote
Ça m'arrive souvent de raconter la légende de la rose d'argent.
Ouais.
Alors si vous voulez, je vous la raconte.
Oui, vas-y,
allez. Parce qu'on a le temps. La légende de la rose d'argent, je la racontais un peu rapidement et d'une manière pas très soft, mais pas hard non plus. On va rester dans un politiquement, très politiquement correct.
Nous rappelons que cette émission est tout public.
Exactement. Donc, les gens de la rose d'argent a beaucoup de variantes, je précise tout de suite. Donc, ma version ne sera pas forcément la version que vous pouvez trouver sur internet, ni la version que pourra vous raconter le vieux sage des mines. Et du coup, tout commence en un beau matin d'une année du 16e siècle. Et un bon petit mineur, tout jeune, tout frais, tout sorti de son école, va travailler dans les mines. Manque de peau.
Et oh, on rentre du boulot.
Pour lui, il n'est pas vraiment rentré d'ailleurs. C'est ça le problème. C'est son premier jour de travail, il va dans
il
la mine
mort.
Tranquillement. C'est une mine qui est assez grande, où il peut pas mal de galeries qui partent à droite, à gauche, des puits dans tous les sens. D'autres galeries qui ont croisé celles-ci dans le passé, certaines qui sont abonnées, certaines qui sont un petit peu éboulées à l'entrée. Donc il se perd. Parce qu'il n'a pas écouté bien les consignes de son chef et qu'il a avancé au mauvais endroit. Excusez-moi. Enfin bon. En est-il tout étant que sa femme va voir le roi des nains. Les nains...
On passe d'une histoire super normale à le roi des nains, les
alors,
gars.
Ouais, je vais pas te le donner, tu me ramènes d'abord 3 chopes de bière, 2 hydromel, et on verra après, hein, celui-là.
Et le roi des nains, qui est du coup le roi des souterrains, c'est lui qui, dans les légendes des mineurs...
D'où il sort le roi des nains, sérieusement, genre sa femme, elle s'est juste dit « Oh, je retrouve plus mon mari ».
C'est des légendes anciennes, ne cherche
pas. Je sais qu'il y a des lapins dans les terres, il y a peut-être un nain qui traîne aussi là-bas. Allez, on y va, les gars.
Du coup... Ce sont, d'après les légendes des nains, des mineurs, pardon, des nains qui auraient placé le minerai sous terre dans les filons pour partager leur richesse avec les gens de la surface. Donc les nains sont les habitants des royaumes souterrains. Et du coup, le roi des nains, connaissant les mines comme sa poche, tout comme la montagne, retrouva son mari en quelques heures seulement. Mais ces quelques heures lui suffirent à tomber follement amoureux de cette dame.
Oh non, non, c'est glauque. Oh non.
Et quand vint ce mineur de changer de mine et de se perdre à nouveau...
Oh
non. Cette fois-ci, le roi des nains ne le retrouvera pas. Nous ne savons pas si c'était intentionnel ou si c'est vraiment pas de chance.
Clairement intentionnel.
Mais pour consoler la femme maintenant veuve, il lui donna le plus beau bijou des souterrains, la rose d'argent.
Ça va, son mari est mort, mais elle a chopé une petite rose.
Ça me rappelle le petit Grégory, ça, dis donc. Votre fils est mort, mais on vous dédommage de 15 000 euros. Allez, tenez.
Et du coup... prise de chagrin et de rage, elle jeta la rose d'argent dans un des plus profonds lacs de la vallée.
C'est horrible.
Et on avait
c'est vraiment horrible.
On raconte que cette rose, des fois, est de nouveau visible. Et quand on la voit éclore, c'est signe d'une nouvelle prospérité pour la vallée. Vallée qui, rappelons-le, est en plein déclin économique depuis la fin du 18e siècle.
Comme d'hab, hein, à ce moment-là,
yes.
En général.
Je précise qu'au 16e siècle, la population de cette ville était à plus de 13 000 habitants et qu'aujourd'hui, elle est à moins de 6 000.
Alors, je tiens à prévenir que j'ai dû aller conduire par là-bas. Il était à peu près 23h45. Tu flippes sur la route, hein. Il n'y a pas un chat. Il y a les gens qui te doublent à 140 alors qu'ils sont dans une route de montagne.
Parce qu'ils ont croisé le nain en allant
sur deux fois de voie et t'arrives dans la ville, il n'y a rien. Il n'y a personne.
D'ailleurs,
pas un chat.
Tu viens de faire penser à une dernière partie de l'histoire. Le roi des nains, lui, fou de rage du fait d'être rejeté par cette dame.
Oh, désespoir.
Ferma à tout jamais le portail le passage entre les mondes souterrains et les mondes de la surface. Mondes souterrains contenant toutes les choses fantastiques telles que les licornes, les lucioles et autres choses que vous ne verrez jamais dans votre vie parce que un jour une femme a jeté une rose dans un lac.
pétasse, elle l'a fait.
C'est ce qu'on appelle la tristesse.
Ça cause qu'on n'a pas de licorne.
Et donc maintenant, c'est le moment de te poser des questions. J'ai les questions du chat, mais vas-y, Yvan, si tu veux.
Alors, cette histoire est très intéressante, je trouve, personnellement. Mais ils ont fumé quoi, en fait?
Je sais pas, mais c'est trop intéressant. Enfin, c'est toujours les trucs qui font partie...
C'était pour un peu parler du côté...
obscur de la force.
Exactement. Non, du côté que, en fait, les mineurs avaient besoin de quelque chose pour un peu... se motiver à travailler.
Ouais, bah c'est comme Sainte-Barbe, quand tu rentres dans certaines mines que t'as en Moselle, près de Bitche, il me semble.
Bah en fait, toutes les mines de Moselle et de Lorraine ont pris Sainte-Barbe. Pris à Sainte-Barbe.
À chaque fois qu'ils rentraient, ils prenaient un petit coup pour pas que les trucs s'effondrent, etc.
Et pour pas que les kobolds viennent les attaquer. Parce que les kobolds, rappelons, sont les esprits maléfiques des souterrains.
Moi, ce qui me faisait beaucoup délirer dans les mines, c'est que t'as toujours un moment où t'as un petit âne en fait, qui active un moulin à eau pour je sais pas quoi, mais... ça m'a toujours fait rigoler.
Le moulin à eau à l'intérieur ou à l'extérieur de la mine?
À l'intérieur. C'est
ça sert simplement à remonter l'eau.
Oui, voilà, c'est ça, ça sert à remonter l'eau.
Parce que les puits sont facilement inondés. Et ce qui a causé la mort de deux mineurs d'ailleurs, dans le passé.
Des mineurs moins de 18 ans ou des mineurs de mine?
Moi j'allais dire des mineurs le jeu, mais bon.
Sachant que sous terre, il n'y a aucun enfant au XVIe siècle.
Ah, par contre, il y en avait.
Du moins du côté. De notre côté alsacien.
Ben, chez nous en Moselle, en tout cas, il y en avait encore il y a genre un siècle.
Il y a un siècle, il y en avait.
Ouais, ils venaient en famille chercher les pierres, etc.
Mais au XVIe siècle, il n'y avait aucun enfant sous terre. C'était une convention dans le règlement minier, seulement des hommes adultes sous terre.
Ce qui est complètement débile parce qu'après, du coup, il y avait quand même des gosses. Et il y avait des encoches dans les murs aussi pour qu'en fait, tu sais, vu que les paniers à pierres pesaient plus de 20 à 30 kilos, les gosses, ils avaient des encoches dans le mur pour pouvoir en fait reposer les paniers. Et les reprendre plus facilement et se lever.
C'est des mines à Samstiel un peu plus récent, un peu plus barbare envers les enfants, les pauvres.
Ouais.
De toute façon, comme disait Didier Super, les enfants, il faut les brûler, comme au Brésil. Comme en Amazonie. Pardon. Alors, j'ai quelques questions du chat pour toi, Luigi.
Parfait.
Déjà, Knack nous demande, est-ce que tu as pu avoir des trucs gratuits comme des sandwichs ou des boissons?
Alors, bien plus que ça, pour être honnête. On va dire qu'après chaque grand événement, on avait une réunion dans un bar...
On veut pas savoir ce qui se passait.
L'argent de l'association.
On dirait la soirée d'intégration.
Enfin, du coup, c'était vraiment, on faisait vraiment une réunion avec le coup et la boisson, c'était juste pour justifier une petite dépense parce que pour faire un repas parce qu'on va pas rester des heures sans manger le soir.
C'est pas faux. J'ai une autre question. Est-ce que tu dis toujours la même chose ou il y a un circuit de choses à dire?
Alors, sachant qu'il y a énormément de choses à dire, si je voulais tout dire, il faudrait plus de 15 heures. Et que les visites durent en théorie maximum 3 heures. Je fais des visites de 5 quand les gens sont intéressés, mais je me fais engueuler par la chef parce que je prends trop de temps. Mais on a énormément, énormément, énormément d'informations. Ça dépend vraiment du domaine qui intéresse les gens. Donc c'est vraiment un peu... c'est une sauce personnalisée pour les gens qui viennent, en fait. Sauf pour une des mines, qui est la mine Saint-Barthélemy, où là, c'est une mine qui dure une heure. Et c'est vraiment la mine d'initiation, donc c'est vraiment un petit sum-up de toutes les infos possibles pour aborder un petit peu tous les sujets.
D'accord. Et j'ai une dernière question... déjà, on se fait engueuler parce que tu parles pas bien dans le micro. Voilà.
Désolé.
Parce que là, j'ai 3 ou 4 podcasteurs aguerris dans le chat qui nous parlent, qui nous insultent. Donc, bouffe ton micro, Luigi. Et donc, j'ai une dernière question. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a-t-il des gobelins à Sainte-Marie ou ce sont les habitants de la vallée?
Oh là là, le clash.
Alors, ça dépend lesquels. Je ne dirais pas de nom, mais il y en a qui passent dans les trous des fois, dans les mines, je précise.
Oula. On veut pas savoir par quel trou.
Pour situer, il y a un endroit dans la mine Le Chêne où il y a deux galeries qui se croisent et puis à la fin, il y a un trou. Alors ce trou est très étroit et c'est compliqué de passer par. C'était d'ailleurs le bizutage à la majorité des guides et moi j'y ai échappé par une grande chance parce que j'ai fait cette mine assez tard. Et du coup, des fois, il y a des gamins qui passent derrière, que j'en vois, faut pas le dire, pour faire peur aux gens qui sont au bout du groupe.
Oh là là là.
En mode, vous êtes trompé de chemin, faites demi-tour. Et à chaque fois, ça fait son effet et c'est une blague très très drôle à faire. Et oui, du coup, les habitants de Sainte-Marie, certains, je ne les apprécie pas beaucoup parce qu'ils font du drift devant ma chambre. Ah, 4h du matin.
À 140 km.
Ah bah tiens, on dirait ma rue. Pardon.
Mais je vais dire, mais toi, il n'y a pas non plus un âne qui fait du bruit toute la journée et des rafales de mille qui passent au-dessus des mines.
C'est pas faux.
Et un rafale de mille qui passe au-dessus des mines, c'est comme ça fait un bruit de tremblement de terre, en fait. C'est très rassurant.
Et on dit bonjour à tous les gobelins de Sainte-Marie-aux-Mines.
Voilà, bonjour les gobelins.
Bonjour les gobelins, les kobolds et autres traîtres, autres êtres et traîtres des fonds souterrains.
Ce sera ma seule participation de la soirée.
Et que nous applaudissons.
Nous rappelons que Yvan fait partie de ce podcast.
Heureusement ou malheureusement, on ne sait pas encore.
Je ne regarde très peu les actus et j'ai très peu d'improvisation. Bonjour.
Salut Yvan.
Alors,
tu fais une très belle statue de cire.
Oui, c'est très drôle. Oui, parce que depuis la dernière fois, en fait, on a investi. Donc, pour l'audio, ça vous change rien. Mais pour la vidéo, en fait, on a deux softbox, donc ça nous flash la gueule. Mais normalement,
on
vous nous voyez un
petit
peu mieux.
Exactement. On voit mieux nos défauts sur notre peau, qui est plus éclairée que d'habitude. Nous sommes des petits êtres luisants maintenant.
Et je pense que c'est le moment de conclure cette première chronique. Et c'est au tour d'Emilie de nous parler.
Ouais.
Et je crois que tu vas nous parler d'un moteur de recherche.
Oh grave, je suis grave chaude là. Alors, je vais d'abord vous parler d'un petit bilan. On
rappelons,
a parlé,
bouffe ton micro.
Je bouffe mon micro, d'accord. Alors,
tu
on va
saturé.
Parler... Laissez-moi parler maintenant. Le sérieux arrive. On va faire un petit bilan des arbres sur la planète, bilan santé de la planète, voilà. Ensuite, on va attaquer sur les associations qui protègent l'environnement ou qui participent de près ou de loin, que ce soit cool ou pas. Ensuite, on va parler d'Ecosia, donc un métamoteur de recherche solidaire allemand gratuit. Voilà, voilà. Donc, on commence par la planète. Donc, comme vous le savez, il y a l'Amazonie qui a cramé ces derniers temps et qui est toujours en train de brûler. Selon le chercheur belge Jean-François Bastin, on a 900 millions d'hectares qui seraient disponibles pour planter des arbres sur la planète. Et donc, ça pourrait réduire de 25% les émissions en CO2 de toute la planète. Donc, pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est qu'un arbre et à quoi ça sert, les arbres notamment permettent de maintenir la biodiversité sur notre planète, lui dit est mort. Mais ils servent également à limiter l'érosion des sols, à filtrer l'eau aussi, et à réguler et équilibrer le climat. Donc tous les connards qui disent que les arbres, ça ne sert à rien.
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Je ne vois pas du tout de qui on pourrait parler, hein. Ça arrive sur Twitter ces derniers temps.
Ah
mais...
bah dis donc le sel, le tas de sel et League of Legends.
Non mais de toute façon les arbres ça sert à rien parce que ça renvoie autant de CO2 que ça n'en absorbe. Hein Jules ? Ça sert à rien les arbres.
Absolument, pardon.
Voilà. Donc ça pourrait réduire, en fait on pourrait réduire considérablement nos émissions en CO2. Actuellement, les arbres permettent d'absorber un quart des combustibles fossiles, des émissions en CO2 de combustibles fossiles de la planète. Donc, on a 3040 milliards d'arbres actuellement, dont presque la moitié qui provient de forêts subtropicales. Donc, quand on dit que l'Amazonie n'est pas le poumon de la planète, c'est peut-être pas le poumon de la planète, mais c'est un des poumons de la planète. Ensuite, on a encore beaucoup d'arbres dans les régions boréales et dans les régions tempérées. Et pour avoir une approximation, donc sur ces 3040 milliards d'arbres qu'on a sur la planète, il y en a 15 milliards qui sont coupés chaque année, donc ce qui est quand même pas mal. Et depuis que les humains peuplent la planète, on a 46% d'arbres qui ont disparu. Pas d'arbres, mais de régions boisées, etc.
De végétation, de forêt.
Exactement. Et on rappelle que même si certaines associations veulent faire en sorte de replanter des arbres, etc., il faut quand même un certain temps avant que les arbres poussent. Hein, c'est pas magique.
Ah bon ? Ça pousse pas instantanément comme dans Astérix ?
Malheureusement, non.
Ou comme dans Minecraft ?
Absolument.
Donc, non seulement il faut continuer à planter des arbres, mais aussi protéger les forêts qui sont déjà matures. Hein, donc, ceux qui disent que ne pas protéger les forêts, ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Voilà.
Ah bon ? Ah bon, protéger
quelque
chose qui retraite...
on est dans les fun facts. Personne ne s'y attendait à ce que je dis.
Ah, franchement, là, c'est waouh.
Et donc, je vais vous parler là de quelques associations, ONG ou militants qui œuvrent pour la planète. Donc, j'ai pris vraiment les premiers que j'avais trouvés, ceux qui plantaient des arbres, du moins. Donc, en Europe, on a Plant for the Planet, qui a été initié par le militant Felix Fickbeiner, c'est un Allemand. Il a planté plus de 1 million d'arbres, je crois, depuis 2007. Au Pakistan, on a Billion Tree Tsunami. En Chine, on a la Muraille Verte. Trop sympa comme nom de projet, je trouve, la Muraille Verte. Et en Australie, depuis février, ils ont prévu de planter plus d'un milliard d'arbres d'ici 2050. Ensuite, on a les grosses entreprises qui essayent de se dédouaner, comme Shell, par exemple, qui a investi 300 milliards dans la reforestation.
Dis donc, les grosses entreprises qui essayent de financer la reforestation.
Ah ben,
pour,
écoute, ils sentent un petit peu mal quand même.
Ah, je vous invite à aller écouter les chroniques de Guillaume Meurice sur Shell, c'est très.
On a Eni qui est en train de reboiser 81 000 km² en Afrique. Et on a Total qui a créé le projet Eco Challenge avec les Kenyans pour planter des arbres. Donc, qui est un projet à la fois social et écologique. On a aussi Arboretum qui prévoit de replanter des arbres dans des zones désertiques en Inde, au Pakistan, etc. On a Reforest Action au Brésil. Donc, vous pouvez donner en fait 3 euros et un arbre qui sera planté. Voilà. Et dans le coin, par exemple, ils ont planté plus de 340 arbres à Weiterswiller. Donc, on avait par exemple des forêts qui étaient infectées par des maladies ou dans lesquelles des insectes avaient dévoré des feuilles, etc. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de replanter des arbres. Mais ce qu'on peut leur reprocher, c'est que même s'ils plantent des arbres, en fait, surtout dans les zones désertiques, ce qui est assez dangereux, c'est que quand on replante des arbres dans une zone dans laquelle il n'y en avait pas à la base, ça nuit à la biodiversité qu'il y avait en fait sur la place, enfin dans la place qu'il y avait. Donc par exemple en Afrique, foutre des arbres en plein milieu de la savane, c'est pas ouf. Voilà. Donc là maintenant je vais vous parler d'Ecosia, donc un métamoteur de recherche solidaire allemand. Donc un métamoteur, c'est un moteur de moteur. Donc le petit moteur, il va reprendre des informations à Google, à Bing, etc. Donc ce qui est cool, c'est que niveau écologie, ils sont super bien. Ils ont le label Bicorp, qui est un label pas très facile à avoir. Donc parmi l'argent, en fait, ils arrivent à gagner de l'argent grâce aux pubs qu'ils mettent dans leur moteur de recherche.
Comme à peu près la majorité des moteurs de recherche au final. Google fait aussi ça. Je vous rappelle les 2-3 premiers liens sponsorisés sur chaque mot-clé. Vous cherchez
voiture. Oui, ils gagnent de l'argent grâce à ça, mais en fait, là, ce qui est bien avec eux, c'est que la moitié de leurs revenus, en fait, part dans le reboisement de forêts, etc., sûr, oui. Et dans des projets éco-solidaires. C'est pas Google qui fera ça. Ouais, non. Mais oui, en fait, ce qui est chiant, c'est que en reprenant en fait des informations d'autres moteurs de recherche, bah, les autres moteurs de recherche continuent à polluer en fait et à fournir des informations, alors que Ecosia en soi, ils ont pour projet de faire une centrale à énergie solaire juste à côté de chez eux. Donc leur bureau, ils sont auto-alimentés.
Oui. Autonome.
Oui, voilà, autonome. Et en fait.
Rejet carbone zéro.
Ouais, négatif même, ouais. Parce que en fait, vu qu'ils plantent des arbres en plus de ça. Ils sont vraiment bons au niveau de l'environnement.
C'est quoi. Pas con, ça, dis donc.
Et du coup, en fait, c'est vraiment super cool parce que niveau rapport financier, on peut voir tous les mois comment ils font pour s'en sortir, combien d'argent est mis en fait dans les projets qu'ils ont, etc. Il y a un respect de la vie privée aussi parce qu'on ne vend pas les informations à qui que ce soit. Il n'y a pas de trackers ou de vente de données aux annonceurs, etc. Il y a anonymisation des recherches sous une semaine. Donc, sinon, en chiffres, Ecosia, le projet est né en 2009. En 2014, c'est la première entreprise allemande certifiée Bicorp. Donc, je vais vous expliquer en détail ce que c'est. C'est une certification internationale octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementale, de gouvernance et à transparence envers le public. Et là, en 2019, actuellement, on a plus de 60 millions d'arbres qui sont plantés. Et eux, ce qui est vraiment bien, c'est que chaque projet est fait en fonction du lieu d'habitat. Donc, ils ne vont pas se dire « Ah, ben, tiens, on va aller reboiser des endroits qui n'étaient pas déjà boisés à la base. » Il y a des études qui sont faites sur les arbres qui sont plantés, etc.
Alors, j'ai deux questions, je les coupe. Est-ce que les moteurs de recherche présentent des résultats certifiés?
C'est-à-dire? Certifié au niveau de l'environnement.
Ouais, je pense au niveau de l'environnement.
Alors en fait, au niveau d'Ecosia, quand on utilise le moteur de recherche, il y a une petite feuille qui est présente juste à côté des résultats de recherche pour savoir si l'entreprise est certifiée. Par exemple, Ecosia, quand on fait la recherche d'Ecosia sur le moteur, Ecosia apparaîtra avec une petite feuille. Et c'est pareil pour, par exemple, une autre entreprise Bicorp française, Utopie. Quand on va sur le site d'Utopie, juste à côté, en fait, il y a la petite feuille qui apparaît.
D'accord, d'accord. Et j'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que tu as, par exemple, le nombre d'arbres plantés par Ecosia?
Oui, Bah, j'étais en train d'en parler en fait.
Ah d'accord. je remonte les questions du chat en même temps qu'elles arrivent.
Ouais, bah, actuellement, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a plus de 60 millions d'arbres qui sont plantés. Et en fait, il y a un petit compteur qui apparaît en haut du moteur de recherche. C'est une fois qu'on a fait plus de 45 recherches, ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais en fait, au bout d'un certain temps, il y a un arbre qui est planté. Donc quand le compteur, le petit arbre en haut à droite atteint 45.
Alors j'ai le nombre. Il y a 67 millions 96 000 196 197 198 199 200 arbres plantés actuellement.
Oui, mais après il faut faire attention parce que tu as ceux qui sont déjà plantés et leur compteur en fait il va trop vite.
Oui, oui, oui.
Et du coup là en fait les chiffres que j'ai c'est sûr que c'est comme ça que ça fonctionne, etc.
T'inquiète. Désolé de t'avoir coupé.
Voilà. Mais du coup par exemple leur chiffre d'affaires de juillet dernier, il s'est élevé à 1 567 995 euros. Et pour les arbres plantés, on a eu 815 000 euros, 376 qui ont été donnés pour planter donc, ces arbres. Voilà, voilà. Donc par exemple, on a des forêts au Pérou qui étaient en train de disparaître depuis 15 ans, qui ont été reboisées. Il y a eu des partenariats aussi au Kenya avec un partenaire qui s'appelle Progresso, par exemple. Et ce qui est super bien aussi avec leur entreprise, c'est que... alors ça, c'est un des trucs qui fait que j'ai trop envie d'aller travailler chez eux. C'est que quand on va en fait militer pour des causes écologiques ou quoi, de manière pacifique, en fait, on a le droit de prendre des congés sans se faire passer pour malade. C'est-à-dire qu'ils vont nous payer les jours qu'on passe à militer. Et si on finit en prison, ils nous donnent un soutien financier en fait pour qu'on puisse rester en prison. Parce que pour eux, il y a deux formes de militantisme qui sont importantes. Il y a le militantisme doux, entre guillemets, et celui plus radical. Et eux, ils veulent à la fois protéger l'environnement en reboisant des arbres et aussi en incitant les gens à se bouger leur cul pour qu'ils aillent dans la rue, quoi. Donc ça, c'est super cool. Voilà, ce sera tout pour moi.
D'accord, merci. Et bah, c'est une belle entreprise, Ecosia.
Ouais, j'ai envie de finir en prison maintenant.
Alors moi, il y a quelques trucs dont je voulais parler, donc pour rester un peu dans le thème écologie et tout ça. Premier truc, tu avais parlé un peu du fait que leurs locaux, en fait, ils sont autonomes et qu'ils ont aucune émission de carbone.
Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est mais un projet qui est en cours, je ne sais pas si financé ou pas. Mais...
Ça me faisait penser en fait, à un autre truc qui était un peu dans le même genre, où c'était en fait une ville, enfin, je crois que c'était aux États-Unis, ça je ne suis plus du tout sûr. Il y a une ville, en fait...
Qui est autosuffisante.
Il y a une ville qui a comme projet, en fait, d'être complètement autosuffisante avec des panneaux solaires et tout ça, et de vraiment avoir une ville entière avec zéro émission de carbone.
Mais après, les panneaux solaires, c'est une énergie qui n'est pas... Enfin, on a prouvé que ce n'était pas sustainable sur le long terme.
Oui, ça ne peut pas être même très longtemps, parce qu'il y a tout ce qui est traitement aussi après du panneau pour la création et pour le recyclage.
Voilà, ils sont hyper durs.
Ce qui pollue beaucoup plus qu'on peut le penser.
Le problème, c'est qu'en fait, certes, une fois que la ville est construite... En fait, une fois que la ville est terminée, effectivement, il y a très peu d'émissions carbone. Le problème, c'est qu'on oublie très vite tout ce qui s'est passé avant pour la construction. Où là, il y a eu les camions, les pelleteuses, l'installation des panneaux solaires.
Bah après, ça en soi, si c'est pas grave de polluer une première fois si ça te sert à ne plus polluer pour le reste de ta vie.
Ouais,
quoi.
Mais en fait, c'est
un investissement.
Le problème que je voyais là-dedans, en fait, c'est le fait qu'ils vendent ça comme une ville totalement avec zéro émission de CO2, enfin d'émission de carbone. Je sais pas si c'est la même chose ou pas.
Oui, c'est la même chose.
Mais en fait, ils zappent complètement ce qu'il y avait avant et du coup, ça m'a un peu dérangé, je trouve.
Bah après, de toute façon, Yvan, il faut quand même de l'électricité pour tous nos
jours ça,
ou des énergies fossiles. Donc, tu peux pas.
Ah oui, ça, je suis totalement d'accord. Le seul truc, en fait, comme dit, le seul truc qui me dérange, c'est qu'ils vendent ça comme un truc zéro émission de carbone et qu'ils parlent pas de ce qui s'est passé avant, quoi, c'est tout. Et deuxième petit point, c'est le moment remise en question de l'humanité.
Alors, comme toutes les semaines, on le fait
à chaque fois. Donc, déjà, imaginez rapidement. Que la vie, comme elle existe depuis l'existence de la Terre jusqu'à aujourd'hui, c'est une ligne. Tu pourras faire le moment VOD après si tu veux.
J'ai grave la flemme de faire du montage. Hein.
Très bien. En gros, imaginez que donc, ce que je viens de dire, c'est une ligne. Donc vous prenez donc, cette ligne et vous la mettez sur une année. Vous prenez le temps à partir duquel l'homme existe jusqu'à aujourd'hui. Ça, clairement.
C'est le dernier jour, je crois, à la 23e heure.
C'est la dernière seconde, en fait.
Pour rester politiquement correct,
ou
c'est
les
une petite crotte toute nulle.
C'est dans les 20 dernières secondes, il me semble.
Je crois que c'est, oui, ouais, mais c'est clairement,
je crois qu'une seconde plus tard, il se passe un truc, mais je sais plus.
C'est clairement une petite crotte toute nulle qui existe quasiment pas. Mm. Et ben maintenant, regardez sur cette ligne, en fait, toute la merde qu'on a foutue.
Sur ces 20 secondes, moins de 20 secondes.
Alors juste une petite réflexion. Bon, pareil, ne prenez pas mes dires comme vrai et vérifiez les informations, puisque c'est possible que je dise de la merde. Mais normalement, non.
Pour moi, c'est vérifié.
faut pas.
Documenter et tout.
Si on regarde, au final, là, ce qu'on est en train de sauver, c'est pas forcément la planète, c'est l'humanité. Parce que la planète, elle a déjà bouffé des gros moments de catastrophes climatiques. On a eu plusieurs déserts glaciaires, plusieurs.
On a
auto eu.
Volcans.
Voilà. Ça sonde masse aussi.
C'était un gros bazar. Mmh. Et là, on est en train. L'humanité est en train de déclencher une nouvelle extinction de masse. Mais comme d'habitude, la planète survivra. Mmh, elle mettra peut-être des millions d'années à se remettre en place. Mais d'ici ces quelques millions d'années, les plantes auront fait leur travail. Et normalement, ce sera de nouveau vivable. Et l'évolution aura refait venir des animaux. Pas des humains, j'espère. J'espère bien, parce que quand même, sinon, ce sera un petit peu dommage.
L'histoire se répète.
Mais voilà, c'est quoi, je rappelle qu'on est en train d'essayer de sauver la planète. Mais la planète, elle se sauvera bien toute seule. Mais ce qu'il faut, c'est quand même essayer d'éviter de niquer toute la biodiversité. Parce qu'eux, ils n'ont rien demandé.
Dédicace aux gens qui disent que les arbres ne servent à rien. Voilà. Je vous aime.
Comme disait Super, les arbres, c'est comme les enfants, il faut les brûler.
Yes.
C'est pas faux.
Je suis bien d'accord avec ça.
On va brûler les enfants plutôt que les arbres. C'est vraiment
les enfants.
Et alors,
je dis qu'un, je n'ai rien contre les enfants.
C'est le moment de chat. Flavien nous conseille la série Cosmos qui montrait ça de manière très didactique dans ce premier épisode. Donc je pense l'histoire de tout ce qui est arbre, pollution et ce dont on parlait Yvan avant.
Donc d'accord. Pour résumer, on est plus au moment où on se dit comment on peut sauver le truc, on est au moment où on se dit comment on peut réduire la merde.
Ouais, c'est ça.
Pardon.
Allez.
Et les voisins vont se plaindre.
C'est pas grave.
Restez positif dans la vie.
Mais ils ont inventé des nouveaux types de maladies psychologiques en lien avec la peur de la destruction de la planète, etc. Il faut que je me penche là-dessus. J'ai pas lu l'article encore, mais ça avait l'air assez intéressant.
D'accord.
On va peut-être attaquer les coups de
cœur. Ah oui, c'est l'histoire des 20 dernières secondes. Et du coup, avant les coups de cœur, c'est le moment de remercier notre mécène du jour.
Yes.
Puisqu'en fait, ça fait genre 20 minutes que j'aurais dû le faire, mais j'ai oublié.
Eh oui, Jules.
Et donc, notre mécène du jour, c'est Knack, qui est organisateur du Knack Fest. Donc, le Knack Fest, c'est un peu ce qui a fait naître ce projet. Hein. Donc voilà, mais je vous en parlerai peut-être plus tard. Et j'en ai déjà parlé dans l'Eden, hein. Bref. il a d'ailleurs un message pour nous, et je vais me faire un plaisir de vous le lire. Le but du Knackfest est de réunir des podcasts alsaciens dans les meilleures conditions possibles pour se retrouver, discuter, faire des émissions uniques et jouer à des jeux de société. Et le Knackfest revient en 2020, voilà.
Pour toujours plus de fun.
Voilà, j'y étais l'année dernière, c'était très sympa. Il y avait Flavien, il y avait Knack. C'était très sympa et ça m'a fait découvrir le podcast autour d'une table plutôt que par distance. Et c'est ça ce qui a fait naître l'Alconos. Et moi, j'irai sûrement cette année. Émilie, je pense que tu viendras avec moi.
Ouais.
Et les autres, si vous voulez venir avec nous.
Pourquoi pas, écoute.
Hein. Donc voilà. Et je pense que c'est le moment de terminer des coups de cœur.
Ouais, allez-y, parce que moi...
Bah vas-y, Yvan, commence.
Alors très bien. Donc aujourd'hui, là, je vais vous parler, toujours le podcast, hein, on se rappelle. Le truc que je voulais parler, c'est le launcher Epic Games, et plus particulièrement en fait le fait qu'ils offrent toutes les deux semaines, je crois, c'est ça ?
Toutes les semaines.
Toutes les semaines en fait, un nouveau jeu gratuit qui est souvent quand même assez cool. Je vous donnerai quelques exemples juste après.
Et comme on dit, gratuit c'est moins cher que payant.
Totalement. Et quand c'est gratuit, c'est meilleur. Et aussi quand c'est gratuit, c'est vous le produit, mais ça c'est un autre délire.
J'ai envie de dire titre, hein, mais
voilà. Oh, dégueulasse. Désolé pour ce mot. Oui, donc en fait, toutes les semaines, vous avez accès souvent à un nouveau jeu gratuit, et comme j'ai dit, souvent c'est super bien. Donc, je sais que par exemple, la semaine dernière, il y a eu deux jeux personnellement que j'adore qui sont Céleste, dédicace à Bigaston.
J'ai pas le bon t-shirt aujourd'hui.
Et Inside, qui sont deux jeux que j'ai pas forcément torchés, bien que le deuxième je l'ai un peu fait. Mais après, dans les jeux qui sont passés, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, il y a déjà eu Subnautica, Slime Rancher, For Honor. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple?
Il y a eu Fez aussi.
Fez aussi.
Fez, il y a eu Enter the Gungeon, il y a eu Abzu, il y a eu Subnautica que tu as déjà dit.
Oui. Et très clairement, souvent c'est effectivement Flavien. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant, j'ai oublié.
Je sais pas.
Ouais, donc en gros, souvent c'est pas forcément des jeux qui sont non plus super ouf, qui vont complètement niquer le game. Mais je trouve personnellement que la plupart du temps c'est quand même des bons jeux qui permettent de bien passer le temps.
Oui, la plupart du temps c'est des bons jeux et si jamais ça vous intéresse, il y a une certaine personne qui s'appelle Mikaston qui a fait un podcast dessus qui s'appelle Epic Free Games. Mais qu'est-ce qu'il veut ?
Mais quoi ?
Non mais voilà, il y a des podcasts qui existent qui en parlent.
Du coup, prends un montage. Hein.
J'ai essayé de trouver une perche pour te l'attendre, moi j'ai pas trouvé.
Oh bah, Flavien me l'a tendu dans le chat. je pense que c'est à toi, Luigi.
Ok, donc c'est à moi. Donc je vais vous parler aussi jeux vidéo aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai parlé un petit peu science YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai vu grâce à un de mes collègues, justement, guide touristique également. Qui est le jeu qui s'appelle Monster Prom. Alors, si vous aimez les Dating Simulator, ça va être pour vous. Si vous aimez pas, c'est aussi pour vous. Parce que c'est vraiment à la déconnade, il y a de l'humour. Bon, faut comprendre l'anglais, par contre, c'est assez compliqué. C'est de l'anglais un peu...
Je confirme.
On va dire entre niveau B1, entre niveau B2 et C1 dans certains cas. Ah. Et que c'est plutôt de l'anglais de Giants. Au sens de, il y a pas mal d'expressions, des raccourcis dans les phrases ou des expressions que vous n'apprendrez jamais en cours.
Bon, après, il n'y a pas que les cours dans la vie, hein, Dieu c'est merci. Ça.
Heureusement, bien sûr. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui.
Sinon, je serais très conne.
Et du coup, c'est vraiment très sympathique. Il y a des références à pas mal de choses de la pop culture. Les personnages sont tous assez attachants. Et même ceux que je détestais au début, maintenant, j'ai bien envie de m'approcher un petit peu d'eux, de connaître leur histoire et leur background. La communauté de ce jeu est aussi assez sympathique. Ils ont même un Discord dans lequel ils posent pas mal de fanart. Et c'est de l'humour qui est un peu bizarre, mais il est sympathique. Il faut juste réussir à accrocher un petit peu, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Néanmoins... Néanmoins, le jeu est très cool et ils vont bientôt lancer le 2 qui sera Monster Camp. Avec mon accent anglais très très fantastique.
Qui ne sera pas du tout le même genre de jeu au final.
Il y aura plusieurs jeux dans le Monster Camp. Je vais résumer. Enfin, ils vont sortir une nouvelle vague de jeux en fait. Il y aura Monster Camp qui est un dating sim. Lui également. Enfin, Monster Prom, c'est dans
dating
un univers.
Sim.
Un...
Dating sim.
c'est dans un univers un peu universitaire. Pour le bal de fin d'année. Vous trouvez un monstre à date et c'est vraiment de l'humour absurde. Dans Monster Camp, ce sera pareil, mais dans un camp de vacances. Et non pas un camp de. Je vais pas faire la blague jusqu'au bout.
On a dit qu'on se contrôlait.
Je reste dans le politiquement correct, je me suis contrôlé à temps. Et il y aura aussi également trois autres modes de jeu. Un qui sera un road trip entre Polly et Scott, deux personnages que j'apprécie énormément du jeu. Une qui est une fantôme qui adore faire la fête, on va résumer ça comme ça. Et l'autre, un loup-garou un petit peu bête sur les bords, mais qui en fait est un génie incompris. Et du coup, ils vont faire un road trip ensemble. Autre jeu qu'il va y avoir, ce sera un voyage au Japon par deux autres personnages, qui va aussi être assez sympathique. Et un autre mode de jeu sera une sorte de jeu de stratégie en temps réel qui se de boule de neige, voilà, où deux équipes s'affronteront.
Eh bien, je pense que c'est à mon tour. Et pour une fois, je vais pas parler de jeux vidéo.
Waouh,
ouais. Franchement, j'aurais pu.
Choqué.
Et je vais parler de podcast.
Déçu.
Puisque je vais vous conseiller un podcast. C'est un podcast, je sais pas lequel. Allez, alors vous préférez quoi, un podcast genre série d'enquête ou actualité?
Jeux vidéo.
Actu.
Actu aussi.
Allez, ouais, actu. Alors je vous conseille le podcast Code Source produit par Le Parisien. C'est un podcast.
T'en parles tous les jours.
J'en ai jamais parlé à l'antenne, mais je vous fais chier tous avec, mais c'est très intéressant.
Je n'ai pas entendu parler personnellement.
Moi
c'est,
non plus.
C'est le podcast qui a remplacé Dans mon cœur les croissants, Feu les croissants. En fait, les croissants, pour ceux qui ne savent pas, c'est une application de matinale radio intelligente et qui me permettait de suivre un petit peu l'actualité. Sauf qu'ils ont fait. Ils ont fermé en mai dernier, liquidation judiciaire et tout. Mais vous pouvez encore écouter les personnes, puisque les gens qui bossent dessus, c'est. Signé, donc Stanislas qui a un peu lancé Synops Live il y a quelques années, voilà, dans le monde du podcast. Ils étaient là avant que je sois né, on va dire, non quand même pas, mais voilà. Et du coup, je vous conseille le podcast Code Source qui décrypte pas mal d'actualités. C'est journalier, vous en avez un tous les jours de la semaine. du lundi au vendredi. Et c'est assez intéressant, il y a plein de trucs, ça dure 20 minutes avec des invités et tout ça. C'est très très sympatoche. Et voilà, et pendant l'été, ils sont passés à l'hebdomadaire pour parler des bandits français. Voilà, c'était très sympathique. Et c'est à ton tour, Émilie, je pense.
Bon, moi, j'ai rien de spécial à dire. Je vais quand même vous parler d'une entreprise française sur laquelle je suis tombée en faisant mes recherches sur Ecosia. Donc, elle s'appelle Utopie. En fait, c'est un site web français qui est consacré à la RSE. Donc, c'est responsabilité sociale des entreprises, il me semble, un truc comme ça. En gros, ils ont créé un baromètre interne pour évaluer chaque année la satisfaction des équipes dans les entreprises sur une cinquantaine de points. Et en fait, si j'ai bien compris de quoi ça parlait, c'est en fait une entreprise qui vend ses services pour améliorer la qualité de vie des autres êtres humains dans les entreprises. Et c'est aussi une bicorp, donc ils arrivent à subvenir à leurs besoins, etc. Ils sont autosuffisants, ça a l'air super cool aussi. Voilà, c'est tout.
Eh bien, je pense que c'est ce qui conclut cet épisode de podcast. On est dans les temps, ça fait environ une heure qu'on enregistre, donc on est dans les temps.
On est pas mal.
On a mieux géré que la première fois.
C'est sûr, la première fois, on avait fait 1h45. Donc,
mais
merci.
La première fois, voilà. C'était plus passionnant.
Et on avait des effets sur le...
Non, pas d'effet.
Allez, on peut bien finir sur un effet.
Non,
vas-y, un
effet.
Petit coup.
Oh, un effet.
Allez, un petit effet, là.
Allez, pour le fun, pour la joie de tout le monde, je mets un petit effet.
Il s'amuse.
Sur la voix de qui ?
Sur ma voix, moi.
Oh, non, bon, mais pour tout le monde.
D'accord, pour tout le monde.
Non, alors, yes. Tu coupes ça maintenant. Tu me laisses parler.
Mais non, remets-le.
Je vais taper des gens.
Oh, c'est génial.
Je vais tuer des gens.
Yeah.
Sauf que j'ai aussi accès à la table. Voilà.
Oh non.
Bon, mets-le à fond.
Oh, je pleure.
C'est le moment de cette fin de podcast. Merci à tous de l'avoir écouté. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie ?
Ah, moi, j'ai rien fait sur toi, t'inquiète pas.
Je crois qu'il l'a juste relâché sur Émilie.
Non. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode.
Beaucoup.
Merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live Twitch.
À la prochaine.
Attends, c'est pas fini. Si vous jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas, que vous pouvez le retrouver sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter Alconos Podcast. Bah,
après, je sais pas s'ils ont envie de le revoir, mais le donner à d'autres personnes.
Oui, voilà.
Si
il y a une déception dans le chat.
Si jamais vous avez loupé le premier épisode, il est disponible sur YouTube en version intégrale découpée.
On s'attendait à des heures de podcast.
sur vos plateformes de podcast préférées. comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, nous faire des retours. Vous avez les Twitter des quatre animateurs autour de la table.
Wow.
Autour de la table dans les abonnements Twitter.
Et si tu pouvais mettre plutôt mon Instagram sur Twitter comme on.
Alors, suivre un compte Instagram avec un compte Twitter.
Oui, bien sûr, je suis sûr que ça marche.
Absolument, oui.
Non, mais si vous voulez me suivre, suivez-moi plutôt sur Instagram si vous voulez me reparler, parce que Twitter, je n'y vais qu'une fois tous les mois à peu près.
Après, ça se trouve, personne n'a envie de t'avoir.
Mais c'est pas grave.
Mais c'est méchant, ça.
J'ai déjà des gens assez géniaux dans ma vie comme vous en face de moi. Donc
oh, trop mignon.
Et je tiens à remercier Flavien pour son follow. Merci à toi.
Merci, gars.
Parce qu'on n'a pas encore de notification.
Merci. Non, mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce qu'il faut quand même qu'on garde l'audio propre puisqu'on fait un podcast, je rappelle.
C'est vrai.
Et voilà, merci à tous nos contributeurs sur Ulule. On le rappelle, merci à tous. C'est grâce à vous qu'on a ce matériel. Le site de l'Alconos est en ligne. Plus ou moins, il est en cours de construction.
Il y a quelques problèmes dedans.
Il y a quelques problèmes. Non, il tourne normalement. C'est
notamment l'orthographe du mot accueil.
Ah, j'ai corrigé aujourd'hui.
Jules n'arrive pas à écrire.
Faudra que je passe vite dessus parce que là, il me fait peur, Jules.
Je vous emmerde.
Ah bah, j'ai pleuré un petit coup en voyant ça.
Voilà, merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera plus tôt, puisqu'à partir de la semaine prochaine, on enregistre DUT comme on vous a prévenu. Ce sera à partir de 17h45. Normalement, de 17h45 à 18h45.
Yes, si tout se passe bien.
Toujours sur la même chaîne Twitch, toujours en audio après sur vos plateformes préférées. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de l'Alconos, invite.gg/alconos, pour discuter avec nous et recevoir toutes les notifications.
Voilà.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci
à vous.
Et à la prochaine.
Ciao.
Salut à tous. Et ils font coucou. Ils font coucou.
De la caméra.
Moment VOD, on fait coucou.
On lui fait coucou, les petits gars. On lui fait coucou. Allez, au revoir tout le monde.
Salut.